Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir, donc du coup, ben merci à Jean-Pierre Crémaux et aux amis du monde diplomatique de m'avoir proposé cette présentation ce soir sur la 69, où je vais essayer de faire un peu une revue la plus synthétique possible, mais en reposant un peu quand même les grands aspects de cette mobilisation exemplaire à plus d'un titre, avec ce thème central ou cette question centrale autour des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Alors, on aurait pu mettre un point d'interrogation, mais on ne l'a pas mis, on a mis un point d'exclamation, parce que ça semble assez entendu quand même sur ce dossier-là, et je vais essayer d'y revenir, et peut-être, si possible, avec une dimension un peu interactive, en tout cas, n'hésitez pas à réagir ou à intervenir. Avec ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter le cadre général qui nous permet de réaffirmer que le projet est illégal, et on va y revenir, on espère bien que la Cour d'appel le confirmera, et voir de ce point de vue-là ce qui s'est passé, ce qui se passe, et où les intérêts privés interviennent par rapport à l'intérêt général. Et puis je prendrai aussi deux situations, deux cas, celui de la Mésange Bleue et celui de la plainte qu'on a en cours contre la prise illégale d'intérêt autour du château de Morin-Scopon sur le tracé de l'autoroute, qui illustre sous différents angles ces problématiques de conflit, ou en tout cas de conflit entre les intérêts privés et l'intérêt général, et les modalités de mobilisation qu'il peut y avoir, de résistance sous différentes formes, avec à chaque fois un point d'appui sur le droit, et le droit de l'environnement en particulier. Donc juste redire déjà que de base je suis docteur en écologie et j'ai beaucoup travaillé dans différentes structures liées à la stratégie nationale pour la biodiversité, la protection de la biodiversité, les inventaires de biodiversité, conservateur d'une réserve naturelle aussi en Guyane avec des enjeux de respect du code de l'environnement. Et puis du coup, face à cette crise majeure de d'effondrement de la biodiversité, dont on parle de plus en plus, mais pas à la hauteur de celle dont on parle pour le climat, par exemple, alors que la crise, l'effondrement de la biodiversité est au moins aussi grave, même probablement plus grave que l'enjeu climatique. C'est 90% des populations d'espèces, d'insectes qui se sont effondrées au cours des 30 dernières années en Europe, et donc les oiseaux qui vont avec, les poissons qui vont avec, tout le reste de la chaîne alimentaire. Et c'est pas rien, enfin 90% d'effondrement de population, c'est énorme. Et derrière, c'est notre assurance vie, quelque part, en tout cas, c'est nos conditions de vie. Donc du coup, et cette biodiversité, elle s'effondre ailleurs sur la planète, en Amazonie, dans les grands massifs forestiers d'Afrique, d'Asie, mais en réalité, elle s'effondre aussi tout autour de nous, dans nos jardins, dans les espaces verts autour de chez nous, et de fait, avec l'artificialisation des terres, de tous ces grands projets inutiles et imposés. Et du coup, l'idée et l'enjeu, c'est aussi pour ça que moi je me suis impliqué très fortement dans cette mobilisation, c'est que là, il y a aussi des choses à faire, ici et maintenant, autour de nous. Et la question de l'effondrement de la biodiversité, elle n'est pas qu'ailleurs, elle ne concerne pas que les autres, bien au contraire. Voilà, avec du coup le fait que la vallée du Giroux, la vallée de la Goutte, où passe cette autoroute, ce projet d'autoroute, ben, quand on y passe une première fois, on peut avoir l'impression que c'est essentiellement des terres agricoles. Donc ça pose un premier problème par rapport aux terres agricoles. Mais on ne voit pas forcément les enjeux de biodiversité qu'il peut y avoir. Or, quand on se penche un peu, qu'on sort un peu de la route nationale pour l'instant, en fait, on a des paysages qui sont vraiment très beaux. On a des systèmes avec des grottes le long de la Goutte, par exemple. On a des espèces qui vivent là et dont, pour certaines, c'est un peu les derniers refuges. Et en tout cas, y compris sur un territoire comme celui-là, il y a des enjeux de préservation de la biodiversité. Donc, les questions que j'avais posé dans la présentation de la soirée, c'est pourquoi et comment, alors que tous les voyants étaient et sont au rouge, un projet aussi anachronique, illégitime et illégal que l'autoroute A69 Toulouse-Castres a pu être autorisé et peut continuer à s'imposer au profit de quelques intérêts privés et au détriment de l'intérêt général. Alors, donc ça, c'est la question de départ. Peut-être ce que je pensais faire, là, pour voir si, je ne sais pas, si on peut essayer un peu d'interactivité, c'est déjà sur la dimension, tous les voyants étaient et sont au rouge, est-ce que déjà tout le monde est au clair avec ça, et est-ce que ça vous inspire quand on dit que ce projet-là, il a démarré alors que tous les voyants étaient au rouge et qu'ils sont toujours au rouge. Est-ce que les personnes veulent réagir là, si l'idée de l'interaction vous va, et sinon j'apporterai aussi des réponses.
Attendez le micro.
Là, on parle des voyants en rouge sur ce projet, mais pourquoi pas,
hein. Oui, mais ce projet, c'était pour faire plaisir aux pharmaciens de l'époque. Hein. C'est un projet qui a 40 ans, donc, mais on n'en voulait pas déjà à l'époque. Hein. Donc il était au rouge, et d'autant plus qu'il y avait la route qui marchait bien. Hein. La nationale marchait très bien. Hein. C'est pas la peine de faire ce projet.
Alors du coup, là, vous répondez à la deuxième question que je voulais poser, on peut poser les deux. C'est quels sont les intérêts privés dans l'histoire?
Là, vous dites, c'est le pharmacien. C'est
le Fabre. Pharmacien Pierre Fabre. Alors, je note, mais on va en discuter.
Fabre et la mairie de Castres, hein, là où ils ne se représentent pas d'ailleurs. Ouais. Et puis peut-être la région aussi.
Et peut-être la région. Alors du coup, je note dans les intérêts privés ou en tout cas particuliers, il y aurait ces trois intervenants. Sur les voyants au rouge, il y a ceux dont je viens de parler. C'est les enjeux climatiques, c'est les enjeux biodiversité, c'est les enjeux agricoles. C'est-à-dire qu'on a tous les signaux qui sont au rouge et qui nous disent qu'il ne faut surtout pas artificialiser des terres supplémentaires. Et là, on y va pour un projet, on va en reparler, pas justifié. Donc, voyant au rouge d'un point de vue global, voyant au rouge parce que, avant que le projet se mette en place, il y a eu un débat public dans les années 2005-2008, je crois, où les gens avaient dit on n'en veut pas. Il y a eu ensuite un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature. Il y a eu des avis très critiques de l'autorité environnementale, qui est une instance placée sous l'autorité du ministre de l'écologie. Il y a eu des avis défavorables du Conseil d'orientation des infrastructures. Et malgré tout, on a une déclaration d'utilité publique, je vais y revenir, et on a un préfet et des préfets qui signent allègrement des autorisations environnementales et qui signent des arrêtés en disant « c'est bon, feu vert, les travaux peuvent démarrer ». Donc on a tous les voyants au rouge et on a des préfets, et j'insiste dessus, et on va y revenir, parce que je pense qu'ils sont vraiment clés dans ce qui dysfonctionne aujourd'hui, qui, eux, signent des autorisations préfectorales alors que tout le monde leur dit « ne faites pas ». Et y compris quand la justice, a posteriori, leur dit, comme ça s'est passé en février, « votre projet, il est illégal, on l'annule ». Et on va en reparler devant la Cour administrative d'appel le 11 décembre. Vous avez le nouveau préfet du Tarn qui est arrivé il y a 4 jours ou 5 jours, qui fait une grande déclaration dans la Dépêche aujourd'hui ou hier, et qui dit « il dit pas « je vais tout faire pour faire respecter l'intérêt général ». Il dit « je vais tout faire pour faire aboutir cette autoroute qui aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, elle est illégale, l'autoroute A69. Elle a été jugée illégale en février l'an dernier, enfin en février 2025 cette année. La justice a fait par un artifice de droit et en fait un dévoiement de ce qu'est le sursis à exécution, a autorisé à ce que les travaux reprennent, mais la justice a suspendu les effets de la décision de février, mais n'a pas suspendu la décision de février. Donc l'autoroute A69, aujourd'hui, au jour où on parle, est illégale. Et on a un préfet qui prend ses fonctions et qui dit « je vais tout faire pour que cette autoroute illégale puisse aller à son terme ». Donc ça, c'est le cadre dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel se pose le débat dont on parle.
Alors, quand j'ai fait la communication ici, j'avais cherché une photo qui pouvait illustrer un petit peu ce sujet-là. Et la photo que j'avais mise en ligne, alors c'est dommage qu'on n'ait pas les images, puisque à cause du rétroprojecteur, mais la photo que j'avais choisie, c'est une photo où on voit la tranchée qui est faite par rapport et à côté des champs qui sont là, des champs qui sont autour, et même à côté de la ferme, qui est d'ailleurs un petit château, à côté des camions qui sont là. C'est une saignée, comme toutes les autoroutes d'ailleurs, mais c'est une saignée gigantesque. Hein. C'est une destruction de champs qui est quand même... Alors je ne sais pas combien d'hectares sont bien en cause, mais...
C'est 4-5 hectares. Et au-delà de la superficie même détruite, c'est le fait que ça coupe le territoire en deux. Et c'est qu'ensuite, autour de l'autoroute, vont s'installer des zones d'aménagement concertées, des entrepôts, voilà, et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que l'autoroute, c'est jamais que l'entrée, en fait, et l'ouverture. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire sur les voyants rouges et sur le caractère intérêt privé, intérêt général. Alors, j'ai entendu Pierre Fabre. On a bien entendu ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vraiment les intérêts privés les plus importants dans ce projet ? Vous avez dit la région et vous avez dit la mairie de Castres. Moi, honnêtement, Fabre, alors on a eu en plus des échos en interne, où l'an dernier, il s'apprêtait à dire que ça leur était égal, en fait, l'autoroute. Alors, Pierre Fabre, monsieur Pierre Fabre, à l'origine, parce qu'il était un peu il régnait sur tout le sud du Tarn, a eu son aéroport, a eu... Et il aurait voulu cette autoroute. Mais aux dernières nouvelles, les labos Pierre Fabre, ce n'est pas eux. Et contrairement à ce qu'on nous dit, il y a probablement un peu un leurre qui nous est mis de ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les seuls intérêts. À qui profite le crime, en fait ? Le BTP. De très loin, le BTP. Et tous les gens qu'ils arrosent. Probablement. Et donc, vous savez qui, aujourd'hui, construit l'autoroute A69 ? Alors, Atosca et, quelqu'un a dit, NGE. Atosca, c'est la vitrine. C'est un consortium qui est monté et dans lequel, effectivement, en plus, Pierre Fabre a 2%, 5% via le regroupement d'entreprises du sud du Tarn. Mais en réalité, c'est NGE, nouvelle génération d'entreprises, qui, en fait, aujourd'hui, ça veut dire nouvelle génération d'entreprises, dont une des trois entreprises fondatrices est le groupe Gentoli. Et vous verrez sur des pelles mécaniques et sur tout un tas d'appareils marqués Gentoli. C'est Gentoli qui vient d'ailleurs au procès devant le tribunal administratif. C'est pas NGE, curieusement. Et c'est pas Atosca. Si, Atosca y est aussi, mais il y a Atosca et Gentoli, mais il n'y a pas NGE. Et NGE, aujourd'hui, ils ont fait Port-la-Nouvelle, que Carole Delga nous présente comme le port de l'Occitanie, de Toulouse-Occitanie. Ils font le métro à Toulouse. Ils font des premiers travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse. Ils font la ligne 14, je ne sais plus, de métro à Paris. Ils font à peu près tous les chantiers qu'il y a aujourd'hui un peu partout en France. En gros, c'est le quatrième, c'est le petit poussé. C'est un peu comme, comment il s'appelle dans la téléphonie, il y avait les trois historiques et il y a le quatrième. Là, dans le BTP, c'est pareil. Il y a Bouygues, Eiffage et Vinci. Et il y a NGE. Et actuellement, c'est NGE qui récupère tous les marchés, ou presque. Et vous avez peut-être vu dans le documentaire que Off Investigation a pu faire il y a maintenant un an et demi, que parmi les personnes qui ont participé au montage financier d'Atosca, et donc qui ont accompagné NGE dans la manière de faire son montage financier Atosca pour faire cette autoroute, il y a des personnes qui ont très directement participé au montage financier du financement des campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Voilà. Et ça, Off Investigation l'a sorti il y a un an et demi. Il y a eu zéro plainte en diffamation par rapport à ça. A priori, il n'y a pas de contestation. Ce qui est problématique, c'est qu'aucun autre média n'est intervenu. J'avais interpellé, il y a Edoui Plenel qui était venu ici pour les 15 ans de Mediapart. Je lui avais dit, pourquoi vous reprenez pas... Quand Mediapart sortait des scandales il y a 15 ans, tout le reste de la presse reprenait aussi. Pourquoi aujourd'hui, quand Off Investigation sort quelque chose comme ça, vous ne reprenez pas ? Alors la réponse d'Edoui Plenel, c'est nous, on est Mediapart, si on ne vérifie pas 4-5 fois les infos, si on fait la moindre erreur, on ne se fera pas rater, donc on ne peut pas se permettre sans faire une grosse enquête derrière. Je dis, mais pourquoi vous ne faites pas un consortium pour arriver à comprendre ce qui se joue derrière tout ça ? Le fameux préfet dont je parlais tout à l'heure, un des deux préfets, François-Xavier Loche, qui était à l'époque préfet du Tarn, qui aujourd'hui est préfet de l'Hérault et qui a signé la fameuse autorisation environnementale qui a permis le début des travaux de la 69, il était avant au cabinet d'Emmanuel Macron, avant d'arriver préfet du Tarn. Bon, donc ça, c'est à petit peu près ça, sur déjà un peu le contexte dans lequel tout ça flotte, dans quoi ça baigne. Et vous disiez, alors, Pierre Fabre, à voir. Éventuellement, je donnerai mon avis dessus. En tout cas, Pierre Fabre, quand ils ont été interrogés à la commission d'enquête parlementaire, ils nous disent on a 200 salariés qui font globalement l'aller-retour Toulouse-Castres par jour. Et dans leur document officiel, ils disent il y a 60 camions, donc qu'on prend 30 dans un sens, 30 dans l'autre, chaque jour qui font le trajet. Bon, vouloir une autoroute pour ça, alors que l'essentiel de leur chiffre d'affaires, l'essentiel de leur production se fait ailleurs sur la planète, à part pour de la gloire locale, on ne voit vraiment pas l'intérêt réel privé qu'ils auraient derrière. Par contre, le BTP, c'est sûr. Des renvois d'ascenseurs, possiblement sur du financement de campagne électorale. Et on sait bien, en tout cas, alors là, c'est vraiment une hypothèse que j'avance à ce stade, mais on sait bien que quand on vise l'Élysée ou d'autres types de grandes campagnes électorales, trouver des financeurs, alors Sarkozy, il est allé carrément chercher Kadhafi et la Libye, mais on peut se dire que des personnalités, y compris régionales, qui ont des objectifs de carrière politique, peuvent avoir tout intérêt à être bien avec le BTP. À l'époque, le PS s'est fait mouiller dans l'affaire Urba et tout ça, donc ça c'est les années 80-90, ou même avant, dans les financements de campagne électorale. Bon, une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas plus, mais en tout cas, cette obstination qu'il peut y avoir à vouloir faire passer ce projet en force, alors que tous les voyants sont au rouge, que tout le monde dit ça ne va pas, y compris d'un point de vue politique, ça peut représenter un coût électoral local pour, en l'occurrence, la présidente de région. Cet acharnement à vouloir faire passer ce projet interroge quand même, avec clairement le BTP qui y a gagné, et puis peut-être d'autres personnes autour.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réaction purement politique et non pas politicienne à la suite de Sivens ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas digéré régionalement la défaite qu'ils ont subie à Sivens, puisqu'ils n'ont pas pu construire leur barrage. Donc, est-ce que tout ça ne participe pas d'une confrontation d'idées nationales sur la question de l'aménagement du territoire, et que chaque fois qu'ils ont une défaite, eh bien, le coup suivant, ils y vont à fond.
Ils veulent une revanche. Ça fait probablement partie aussi du décor d'ensemble et de la volonté de passer en force. Alors, si vous voulez bien, je vais continuer.
Juste un petit retour en arrière, juste dans la croissance fulgurante de NGE, je citerai notamment le rachat de la société SAD à Veolia, ce qui s'étend donc dans le domaine de l'eau, puisqu'ils ont déjà plusieurs concessions dans l'Aude, etc. Bon, voilà, donc c'est cette croissance encore sur un nouveau domaine maintenant. Voilà.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est sur une. Alors, du coup, là, on a un peu un contexte d'intérêts privés qui gravitent, mais je reviendrai après, je vous l'ai dit, notamment avec le cas du château de Morin-Scopon, des intérêts plus locaux aussi qui quelque part ensuite se nourrissent. Et là, pour le coup, il y a du ruissellement peut-être local de tout ça. Donc ça, c'était le premier aspect. Et ensuite, la suite de l'intention de la conférence de ce soir, c'est comment toutefois des résistances collectives et la diversité des tactiques permettent de contester en pratique ce rouleau compresseur, et comment les ressorts du droit de l'environnement en particulier permettent de trouver des points d'appui et des principes fondamentaux essentiels à cette résistance, si tant est que des juges osent dire pleinement le droit. Voilà, donc c'est autour de ça, effectivement, que je propose de faire cet échange ce soir. Donc, peut-être pour se redire et se redire pourquoi, effectivement, ce projet est illégal, et il a été affirmé comme illégal par le tribunal en février, et pourquoi, vous allez voir, je vais essayer de montrer aussi pourquoi c'est très fort de la part des juges. Enfin, c'était normal et c'était le droit, mais c'est la première fois que le droit a été dit de manière aussi claire. Et qu'est-ce que ça représente justement au regard de cette problématique de l'intérêt général par rapport aux intérêts privés, voilà, donc je vais y revenir. Mais donc du coup, pour se resituer tout ça, c'est se redire qu'aujourd'hui on est quand même dans, en théorie, sur le papier, un droit de l'environnement très fort et très protecteur. On a inscrit dans la charte de l'environnement, qui est annexée à la Constitution, donc ça a une valeur constitutionnelle très forte, des principes tels que le fameux principe de prévention, le fait d'avoir le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, le fait d'être informé et de pouvoir contribuer à toute consultation, à toute décision publique d'action impactant l'environnement. Tout ça est inscrit dans la Constitution. Et c'est inscrit dans la Constitution en considérant que la nature est bien commun de l'humanité et de la nation. Cette notion, elle est clé pour comprendre en quoi la décision du tribunal de février était importante et pourquoi elle passe au-dessus de tout un tas d'autres de considérants, et que par contre, en face, tous les gens qui défendent des intérêts privés se sont arc-boutés en disant « c'est pas possible, les juges ont fait n'importe quoi ». Non, les juges ont justement pris toute la mesure ou fait prendre toute la mesure de ce que prévoit le droit de l'environnement par rapport à ça. Donc ensuite, on a des lois sur la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui prévoit par exemple qu'avant de faire tout projet d'infrastructure, on doit d'abord rénover l'existant, et en particulier l'existant de modes de transport en commun, donc en particulier le train. Et vous verrez, quand ils invoquent la LOM, quand ils invoquent cette loi, les pro-autoroutes, ils l'invoquent pour dire « Ah, il y avait marqué à 69 dans un coin... » Oui, mais ils oublient de dire que la LOM, elle disait avant tout qu'ils auraient dû étudier l'alternative ferroviaire, on va y revenir. Et puis, on a donc la déclinaison de ça, enfin la déclinaison de la charte de l'environnement, en tout cas dans le code de l'environnement, entre autres, c'est qu'il est strictement interdit, mais strictement interdit, de détruire la moindre espèce, le moindre individu, la moindre plume, la moindre feuille, le moindre œuf d'un individu d'espèce protégée. Donc des oiseaux, des lézards, des grenouilles, des araignées, des insectes, des mammifères, des poissons. Alors poissons un peu plus compliqués parce qu'avec le droit de la pêche, c'est un peu plus compliqué. Mais... Et sur la chasse, il y a quelques espèces qui sont du coup pas protégées. Mais donc ça, c'est ce qui est strictement interdit. Et donc des espèces ou leurs habitats d'espèces. Et c'est-à-dire que par exemple, un vieux chêne qui héberge des insectes, des grands capricornes, qui sont espèces protégées, l'arbre est considéré comme habitat d'espèce, et à ce titre-là, il est protégé autant que l'insecte qui y habite. Et donc ça, c'est le code de l'environnement tel qu'il est, et si on ne respecte pas ça, et d'ailleurs, c'est possible que des personnes, y compris parmi nous, coupent leur haie au printemps pendant que des oiseaux, peut-être des mésanges, y font leur nid, ben, en fait, on est en train de commettre un délit qui est passible de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Voire, quand c'est commis en bande organisée, c'est 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Et là, une des plaintes qu'on a dans le dossier de la 69 contre le préfet, Atosca, NGE, et toutes les personnes et les bureaux d'études et les entreprises qui ont venu couper les arbres, c'est une plainte pour destruction de biodiversité en bande organisée. Et donc ce qui risque, le jour où la justice voudra bien traiter cette plainte, c'est 7 ans d'emprisonnement, 750 000 euros d'amende. Donc c'est strictement interdit de toucher à tout ça, sauf si on a un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale qui en fait permet de déroger à cette interdiction. Et c'est pour ça que les préfets signent allègrement ces autorisations, et c'est pour ça qu'il y a besoin de ces autorisations environnementales qui incluent la dérogation sur les espèces protégées, la biodiversité protégée, mais aussi des dérogations concernant la loi sur l'eau, concernant les monuments historiques, concernant les usines par exemple, comme les usines à bitume. Voilà. Donc du coup, en tout cas, quand le préfet y signe, il déroge à toutes les interdictions strictes. Mais pour faire cette dérogation, donc il fait allègrement, alors que le Conseil national de la protection de la nature lui dit « ne faites pas », que l'autorité environnementale lui dit « ne faites pas », qu'au passage, le Conseil d'orientation des infrastructures lui dit « on ne voit vraiment pas l'utilité de cette autoroute qui va être pas rentable, ruineuse, tout ça », le préfet y signe. Mais pour signer, en théorie, il a besoin de conditions. Il ne peut quand même pas... Il ne peut pas faire ça comme ça, dire « allez, c'est bon, ça me cartelle ». Enfin, en principe, il ne peut pas dire « cartelle est mon bon plaisir » ou « cartelle est le bon plaisir de Macron ». Finalement, j'autorise ces espèces et tout ça, c'est pas grave, on balaye. Et donc, pour pouvoir faire cette dérogation, je vais vous parler que de la partie biodiversité, je ne vais pas parler de l'eau, je ne vais pas parler des monuments. Enfin, si des monuments historiques, j'y reviendrai après par rapport au château de Scopon. Mais pour pouvoir faire cette dérogation, il y a besoin de 3 critères obligatoire et cumulatif. Donc s'il y en a un des 3 qui n'est pas rempli, l'autorisation environnementale est illégale. Et donc pour avoir le droit à faire cette dérogation, le préfet doit avoir vérifié que, 1, il n'existait pas d'alternative. Et en particulier, nous dit la LOM, pas d'alternative ferroviaire et de transport en commun, et où, mais ça vient en second en principe, de rénovation de la voie de la route existante ou d'amélioration de la voie existante. Donc la première condition, très ferme, et sur laquelle la plupart des juridictions aujourd'hui annulent des projets, c'est vous devez avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'alternative. Deuxièmement, vous devez vérifier que si vous détruisez de la biodiversité, des espèces et leurs habitats, donc je donnais l'arbre, ça peut être des prairies qui hébergent telle ou telle orchidée ou telle ou telle reptile ou telle ou telle amphibien ou autre, si vous impactez à cet endroit sur la trace dont tu parlais, où là où il dégage toute la végétation, il décape le sol et tout, si vous détruisez de la biodiversité ici, vous devez garantir que ailleurs dans l'aire de répartition de l'espèce, elle se porte au moins aussi bien qu'avant que vous détruisiez, voire, nous dit la loi en principe, mais ça ils oublient souvent, que vous permettez une reconquête de biodiversité, que vous permettez un gain net de biodiversité. Donc ça, vous ne pouvez déroger à l'interdiction stricte de détruire que si il n'y avait aucune alternative et que vous avez garanti que tout se passerait bien pour les espèces et leurs habitats. Alors normalement, c'est dans l'aire de répartition, mais c'est alors, plus ou moins proche, plus ou moins global, mais voilà. Et ces deux conditions strictes ne sont valables que si la troisième est remplie aussi, qui est que, en plus, vous démontrez que vous avez une raison impérative d'intérêt public majeur pour faire ce projet. C'est-à-dire que vous pourriez dire, j'avais pas d'alternative, là je suis dans le désert, il n'y avait rien, et je voulais faire une autoroute, vous auriez rempli la première condition. Vous étiez dans le désert, il n'y avait pas d'espèce à détruire, vous avez rempli la deuxième condition. Mais est-ce que vous aviez une raison impérative d'intérêt public majeur de faire une autoroute à cet endroit-là dans le désert ? Bon, mais voilà, donc il faut remplir ces trois conditions, et c'est sur cette troisième condition pour l'instant, sans se pencher sur les autres, que le tribunal administratif de Toulouse a décidé le 27 février dernier que cette autoroute était illégale, parce que la manière dont les porteurs de projets ont justifié en fait cette autoroute, qui clairement, enfin en tout cas, n'avait pas forcément un intérêt, mais justement, la manière servait probablement d'autres intérêts qu'un intérêt public majeur. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient essayé de mettre comme argument pour se dire si, il y a absolument besoin de l'autoroute, c'était un, le fameux argument du désenclavement du bassin d'emploi Castres-Mazamet. C'est important dans la manière dont ils ont rédigé, parce que quand le préfet a rédigé, c'est ce qu'il a écrit. Il a dit que c'était pour désenclaver Castres-Mazamet. Entre parenthèses, à ce stade, l'autoroute, elle ne dessert que Castres. Elle ne dessert pas Mazamet. La voie ferroviaire, elle dessert Mazamet, La Bruguière, Castres, Vielmur. Mais ils nous disent, ah oui, mais ça ne dessert pas Puylaurens. Eh oui, mais bon, ça dessert quatre villes du bassin Castres-Mazamet. Votre autoroute, elle en dessert que Castres principalement. Et elle passe par Puylaurens. Donc, premier truc, c'est le fameux désenclavement. Le deuxième, c'est le gain de temps de trajet, l'augmentation de la sécurité, et tout ça dans une logique d'équité territoriale entre les villes moyennes. Donc, c'est ce qu'ils ont mis pour dire, voilà pourquoi. Alors, les alternatives, c'est pas compliqué, on cherche même pas. La comparaison fer-route est défavorable aux ferroviaires. Il nous faut une autoroute. Les espèces, vous inquiétez pas, on va faire tout ce qu'il faut, on va compenser, elles se porteront mieux après qu'avant, vous inquiétez pas. Et on a vraiment besoin de cette autoroute pour les raisons que je viens de vous dire. Et c'est sur le premier critère que le tribunal nous a dit, parce qu'en fait, il y a un trafic vraiment pas important, le besoin n'est pas justifié. Normalement, une autoroute, elle est rentable à partir de au moins 14 000 véhicules jour. Aujourd'hui, ils sont à 6 000. Et encore, c'est 6 000 entre Castres, Mazamet et l'Ouest, ou le sud. Donc en fait, c'est en réalité dans les chiffres qu'ils donnent, pas actualisés, c'est 5200 entre Castres et Toulouse, mais en réalité, il y en a 3000 qui vont entre Castres et Revel. Donc en réalité, les gens, ils prendraient même pas cette autoroute. Donc en fait, leur besoin n'est pas justifié. Sur la sécurité, ce qui a été dit, c'est il n'y a pas besoin, en fait, et c'est ce que la rapporteure publique a retenu. Vous nous dites que l'autoroute augmente la sécurité. Certes, une autoroute, c'est moins dangereux qu'une route nationale. Mais comme vous allez faire une autoroute payante et très chère, vous allez faire que les gens qui n'auront pas les moyens et qui aujourd'hui passaient sur des déviations gratuites de Soyles et Puylaurens vont passer dans les villages, et donc vous allez remettre de l'insécurité routière dans les villages, et ça, vous n'avez pas évalué le coût-bénéfice et la balance des deux. Donc vous ne démontrez pas votre réseau impératif d'intérêt public majeur, et en termes d'équité territoriale, une autoroute payante à cet endroit-là, alors qu'il y a une autoroute gratuite pour Albi, bon, mais ça ils l'ont pas trop examiné, mais de fait, il n'y a pas d'équité. Alors du coup, je voulais m'arrêter sur ces premiers aspects, et parce que derrière, ben, vous avez entendu tous les pro-autoroutes qui ont dit « mais comment ça, c'est scandaleux, comment des juges comme ça, dont une rapporteure publique jeune qui vient de sortir de ses études il y a 4 ans, qui, à part un stage au Conseil d'État, n'a rien fait d'autre dans sa vie, ben, elle a fait un stage au Conseil d'État, elle connaît l'état du droit le plus actuel, les principes fondamentaux du droit de l'environnement, et son argumentaire était très solide ». Et les trois magistrates, qui dans un premier temps n'ont pas voulu juger en décembre l'an dernier, qui ont renvoyé à février, enfin elles avaient renvoyé à plusieurs mois, et on leur a mis la pression en refaisant référé, suspension et tout, elles ont jugé dès février. Et là, même la présidente de l'audience, dont on sent bien, on l'a eu nous sur d'autres audiences, qu'elle n'avait vraiment pas envie de nous donner raison. Mais là, je pense qu'elle voyait bien que le dossier est... En fait, nous on a gagné, mais c'est surtout eux qui ont perdu, parce que leur dossier est tellement mauvais, ils sont tellement sûrs qu'en fait ils peuvent passer outre, qu'ils peuvent faire signer leur autorisation au préfet sans rien justifier jusque-là, parce que les tribunaux n'osent pas dire stop à ces projets, qu'en fait... Mais là, la présidente du tribunal avait dû faire remarquer au représentant de la préfecture qu'il était venu sans un mandat. Il devait avoir un mandat pour dire qu'il représentait et la préfecture du Tarn et la préfecture de la Haute-Garonne. La présidente lui a dit « vous l'avez votre mandat ?» Bon, mais elle lui a donné des signes, là, je peux vraiment rien faire pour vous. Donc, elle a fini par juger que cette autoroute était illégale, en février l'an dernier. Et puis, là, il y a eu tollé général, comment ça, alors que l'autoroute a déjà démarré, alors qu'elle bénéficie d'une déclaration d'utilité publique, comment est-ce que ça se peut que des juges osent dire ça aujourd'hui ? Voilà. Alors là, du coup, je veux faire une petite pause sur les aspects juridiques.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Je rajoute un point sur la sécurité qui est quand même impressionnant. Historiquement, pour aller à Castres, de Toulouse, il y a l'ancienne route de Castres qui passe, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui passe par Kent, Fonsegrive et continue par la suite jusqu'à Valaisville. Et vous aviez la route qui, effectivement, était, je crois que c'est la 126, si je ne m'abuse, qui passait, alors c'est les sorties, Mont-Rabé, tout ça, qui sont un petit peu compliquées, les sorties de Toulouse, comme toujours, tout comme les entrées de Castres, hein, de l'autre côté. Et l'autre route qui passait donc par Verfeil, enfin qui rentre par la Verfeil et qui continuait, qui est une route très, très, très droite. C'est là-dessus qu'ils construisent l'autoroute. Cette route, qui était la route la plus pratique pour aller vers Castres, elle est tellement détériorée à l'heure actuelle, avec des ronds-points de travaux, etc., que les usagers, actuellement, traversent par les coteaux, c'est-à-dire, si vous connaissez, en gros, vers Gorée, Bourg-Saint-Bernard, pour couper. Et là, vous avez une route qui, effectivement, elle, est beaucoup plus sinueuse, beaucoup plus dangereuse. Donc, les arguments sécuritaires, ils sont complètement fallacieux. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point-là.
OK. Peut-être ce que je voulais dire, parce que dans la présentation, il y avait aussi l'idée comment la diversité... Alors, je vais revenir là, sur le point dont je vous parle, de la RIPM, mais juste dire que si la présidente du tribunal, enfin, si le tribunal a aussi dit le droit plein et entier, et je vais y revenir, c'est aussi qu'il y avait un contexte de mobilisation très forte, avec des actions de tous ordres, avec des mobilisations nombreuses, avec des personnes dans les arbres, avec une opposition locale importante, avec un relais médiatique, les grèves de la faim, de la soif qui ont porté, et c'est indéniable que la justice juge aussi au regard d'un contexte. Pour dire, les amis de la Terre, on a un recours contre la troisième ligne de métro, qui est une gabegie en termes de tout, de béton, qui va détruire les gravières de l'Ariège, je vous en passe les meilleurs, et des pires. Le recours, on l'a déposé avant la 69, on l'a déposé avant la LGV, on n'a toujours pas d'audience au tribunal administratif de Toulouse. Donc c'est évident, et ça, voilà, que la justice, elle juge aussi par rapport à la pression médiatique, à la pression, à la mobilisation populaire qu'il peut y avoir, à l'actualité, aux incidents qu'il peut y avoir, aux actes de résistance, de désobéissance civile. Ça crée un contexte et ça oblige aussi les magistrats et les magistrates à se pencher sur le dossier. Ça, c'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui s'est joué dans ce jugement et pourquoi il y a quelque chose qui choque et qu'on peut comprendre qu'il soit choquant ? Parce qu'on leur dit, il y a eu une déclaration d'utilité publique en 2018 et cette autoroute, en gros, on nous a dit qu'elle était d'utilité publique. Et aujourd'hui, on a des juges qui nous disent qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Et là, du coup, je pense que c'est important, et si on peut se l'approprier collectivement et en faire vraiment usage, ces notions, elles sont clés, parce que, en fait, une déclaration d'utilité publique, c'est une dérogation au droit de propriété, au droit de propriété privée. Et c'est pris toujours en amont des projets pour en fait permettre l'expropriation. Et donc ça touche à un principe constitutionnel, qui est le droit de propriété, mais qui est attaché à la personne, morale, physique ou morale. Donc en fait, la DUP, elle dit, ce projet nous paraît suffisamment utile d'un point de vue général et public pour qu'on ait le droit d'exproprier des personnes. Mais on déroge à un droit qui touche au droit des personnes. Et si on veut détruire de la biodiversité, et c'est ce qui ressort en fait du jugement de février 2025, en fait l'exigence elle est beaucoup plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit la rapporteure publique sur la base d'une jurisprudence du Conseil d'État qui est que pour justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur, les critères et la barre est plus haute que pour obtenir une déclaration d'utilité publique. Et si vous remémorez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la charte de l'environnement, il y a une logique, en fait. Parce que la DUP, c'est la propriété privée, c'est des personnes physiques et morales. La biodiversité, la nature, est considérée comme un bien commun de la nation et de l'humanité. Donc, pour déroger à l'interdiction stricte de détruire un bien commun de la nation, les exigences sont beaucoup plus importantes. Et en fait, si on regarde bien dans le DUP, il y a déclaration d'utilité publique, Donc il y a le U et le P, utilité publique, et dans la raison impérative d'intérêt public majeur, il y a le I et le P qui, quelque part, sont équivalents, on va dire. Il y a l'intérêt public. Mais les juges nous disent, faut-il encore cet intérêt public ? Il soit, du coup, majeur. Et par exemple, sur la sécurité routière, c'est ce qu'ont dit les juges. Ils ont dit, vous allez apporter un gain de sécurité, mais vous ne démontrez pas qu'avec la perte de sécurité routière dans le passage des villages, il soit vraiment majeur, votre gain de sécurité. Et vu qu'en fait, il n'y a pas de décrochage démographique ou économique de Castres, vous ne démontrez pas le caractère impératif. L'imminence et la nécessité absolue qu'il y aurait à faire absolument une autoroute, sans quoi ça serait la catastrophe intégrale dans le sud du Tarn. Même au contraire, Castres, en fait, a une démographie qui progresse légèrement, alors que Albi, qui est une autoroute gratuite et plus de trains, a une démographie qui baisse. En termes économiques, pareil, Castres, en fait, malgré ou grâce à son isolement relatif, finalement se porte mieux que le bassin Albi-Carmaux. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est joué dans la décision. Et c'est aussi pour ça. Alors c'est pour ça que ça a créé un tollé. Et pour le coup, comment ça? Alors nous, on déroge au droit de propriété, au sacro-saint droit de propriété. Et avec ça, maintenant vous nous dites que le droit des grenouilles, des mésanges et tout serait plus important. Et qu'avec ça, vous pourriez arrêter le projet dont nous on avait dit qu'on pouvait y mettre une DUP. Donc en gros, c'est ça qui s'est joué. Derrière, il s'est passé ce que je vous disais, c'est ce fameux sursis à exécution qu'ils ont obtenu en avril ou mai. Enfin, l'audience est en avril, la décision en mai. Donc, ce qui est un scandale absolu, même si l'idée, c'est pas. Enfin, on fait confiance aux magistrats, aux magistrates, mais là, il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des juges de première instance, trois juges, qui ont instruit pendant deux ans un dossier, une rapporteure publique qui a fait un rapport très circonstancié. Il y a eu un report d'audience qui aboutit à un jugement très très bien rédigé qui montre bien cette différence entre DUP et RIPM. Et là, il y a des juges de la cour d'appel qui sont saisis en urgence, qui reçoivent les mémoires trois jours avant l'audience et qui disent, en fait, on est sûr qu'on va donner tort à nos collègues de première instance, donc on pense que les travaux peuvent reprendre parce qu'on est sûr qu'en appel, on vous donnera tort et en fait... Du coup, les travaux peuvent reprendre dès à présent. On n'a même pas besoin d'attendre l'audience d'appel pour savoir qu'on va vous donner tort. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, du coup, et voilà pourquoi ils ont pris ce sursis à exécution, comme je le disais tout à l'heure, qui suspend les effets du jugement de première instance, et donc qui suspendait l'arrêt immédiat des travaux qu'impliquait le jugement de première instance, mais qui n'a pas suspendu le jugement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des travaux en cours d'une autoroute illégale et un préfet qui dit qu'il va faire en sorte que cette autoroute illégale aille à son terme. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, et avec du coup, des juges là qui ont clairement... c'est ça que je voulais dire, c'est, vous savez un peu comment ça s'est passé à l'Assemblée aussi, là, le détournement des votes, c'est-à-dire qu'on a des procédures, par exemple des motions de rejet, ou je ne sais plus comment elles s'appellent, que des députés macronistes ont utilisé pour rejeter des textes pour lesquels ils étaient, mais pour gagner du temps, pour les faire aller directement en CMP ou ce que vous voulez, en commission mixte paritaire. C'est-à-dire que là, il y a un retournement complètement, un dévoiement de certains textes de la Ve République, en l'occurrence, ou là, du droit, en fait, utilisé au contraire de leur esprit premier. Le sursis à exécution, normalement, il est fait pour préserver des intérêts en attendant un jugement d'appel, mais des intérêts irréversibles. Typiquement, là, c'est la nature qui est en train d'être détruite, qui est irréversible. C'est pas, et on l'avait démontré pendant l'audience, l'économie des NGE à Tosca, ils se portent très bien. Ils ont même eux-mêmes écrit, dans leur bilan financier 2024 consolidé au 1er mars 2025, que la décision du tribunal administratif de Toulouse le 27 février ne remettait en rien en cause leur équilibre financier. Alors, on adore ça. C'est pour ça que les juges, en fait, n'avaient rien à dire, si ce n'est aucun de vos arguments ne vaut. Allez, hop, circulez, on vous donnera tort. Alors là, on a obtenu, pour finir sur ce truc et repasser sur deux, trois autres aspects, on a obtenu la garantie que les juges qui jugeront l'affaire sur le fond en appel, donc avec l'audience du 11 décembre, ne soient pas les mêmes, en tout cas le président d'audience et le rapporteur public, ne soient pas les mêmes que ceux qui ont, en urgence pour le sursis à exécution, dit qu'ils étaient sûrs de nous donner tort là. Mais ça, c'est pas gagné. Par exemple, sur le Roissy Express, ce sont les quatre mêmes magistrats qui avaient accordé un sursis à exécution, donc de reprise des chantiers, qui ont eux-mêmes jugé sur le fond en appel ensuite. Donc là, vraiment, bon, notre avocate Alistair Haas et sa consoeur Julie Rover ont dit, moi, si jamais c'est les mêmes, je fais un scandale, je plaide pas et tout ça. Donc, probablement que vu l'attention médiatique qu'il peut y avoir, ils se sont dit là, ça serait trop gros si c'est les mêmes juges. Donc on a obtenu que ce ne soit pas les mêmes. On va voir qui c'est. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais en tout cas, on pense que sur le fond, pour les raisons que je vous ai dites, sur la raison impérative d'intérêt public majeur, et puis là, je vais accélérer maintenant sur les autres éléments, sur la non-recherche d'alternatives et sur les impacts sur la biodiversité, que les juges vont regarder et vont dire... Alors, la raison impérative d'intérêt public majeur, c'est compliqué parce que c'est en partie subjectif. Est-ce qu'il y a décrochage économique, démographique ? Est-ce que... on peut considérer le gain de sécurité, est-ce que quand même il y a besoin d'une autoroute ? Ce que le rapporteur nous a dit, c'est la seule ville moyenne de la région qui n'a pas d'autoroute. Par nature, une autoroute doit être considérée comme ayant une raison impérative d'intérêt public majeur. Bon. Voilà. Mais par contre, sur la non-recherche d'alternatives, c'est très clair. À un moment, quand ça leur a été posé la question en commission d'enquête parlementaire, Carole Delga, d'une part, le ministère, d'autre part, la SNCF, d'autre part, on dit, non, on n'a pas étudié d'alternative ferroviaire. Mais parce que globalement, ça ne dessert pas les bons endroits. Non, mais la loi vous oblige. Dans l'arrêté préfectoral, le préfet a dit que la comparaison fer-route était défavorable au ferroviaire. Et vous n'avez pas étudié l'alternative ferroviaire qui répond aux mêmes besoins. Relier Castres-Mazamet, même mieux Castres-Mazamet à Toulouse, qui est plus de sécurité même qu'une autoroute, qui en termes de temps, de la gare de Castres à la gare de Matabiau, est meilleur qu'une autoroute avec embouteillage en arrivant sur le périph' à Toulouse. Et en termes d'équité territoriale, Castres-Mazamet est la seule ville moyenne de Midi-Pyrénées à ne pas avoir bénéficié des améliorations, des modernisations de signalisation depuis maintenant 15 ans, d'avoir le moins de dessertes par jour et d'avoir, si on regarde bien, par exemple, Albi a son billet avantageux à 5 euros, Castres, là, à 10 euros, parce que la barre fixée par la région, c'est 80 km. La gare d'Albi, c'est 78 km. La gare de Castres, c'est 83 km. Bon, rien n'est fait et rien n'a été fait ces dernières années pour que le train soit développé pour Castres-Mazamet. Bien au contraire, il s'apprête à déférer des doubles voies en gare de Castres, de Vielmur en gare de la Bruyère. Et dans tout ça, Carole Delga nous a dit, très fort, il n'y a pas d'alternative. Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Si j'avais pu, j'aurais fait du train. Mais ça aurait coûté excessivement cher, 1 milliard d'euros. Mensonge, mais très gros mensonge. Nous, on a montré que pour 40 millions d'infrastructures et 40 millions de trains, on fait rouler deux fois plus de trains. C'est les exigences qui étaient posées lors du débat public en 2006-2007 pour en comment on dessert. C'est ce qu'elle annonce sur Foix. Par exemple, la région dit on cadence le train sur Foix, un train toutes les demi-heures, en transportant deux personnes. Donc, gros mensonge de la part de Carole Delga, sous serment devant la commission d'enquête parlementaire, à ce propos notamment. Et elle a même dit 1 milliard dans la presse à plusieurs reprises, mais à des députés FI qui lui ont posé la question de comment vous justifiez votre 1 milliard, et en fait, maintenant, c'est plus 1 milliard, c'est 2,7 milliards. Et c'est même pas 2,7 milliards, c'est 4 milliards en euros 2032, parce qu'il faut tenir compte de l'inflation et tout. Je ne sais pas si vous avez entendu, le gouvernement dit que pour rénover toutes les lignes ferroviaires de France, il faudrait 1,5 milliard par an pour arriver à peu près à rénover. Donc elle, il faudrait 4 milliards, soi-disant, à la région Occitanie pour arriver à faire rouler deux fois plus de trains entre Castres-Mazamet et Toulouse. Bon, et au passage, petit truc un peu intéressant, c'est que quand son adjoint, son vice-président, a été auditionné devant la commission d'enquête parlementaire et qu'il lui a été dit « Pourquoi vous dites qu'il vous faut absolument de la double voie électrique ?» Il a dit « Parce qu'on veut absolument utiliser des trains à étage pour avoir plus de capacité. » Et les seuls trains à étage qu'on a, ce sont des trains électriques. Par contre, on ne touchera pas au tunnel de Montastruc et de Castelmoroux. Bon, enfin, les trains à étage, ils passeront pas entre Toulouse et Saint-Sulpice. Donc ils nous racontent, mais vraiment n'importe quoi, à longueur de temps, devant les commissions d'enquête, dans les journaux, ça leur pose aucun problème. Pourquoi ? Alors là, on en revient, quels intérêts ils servent, pourquoi ils font ça, Gibelin, parti communiste, et Carole Delga, parti socialiste. Voilà. Et ces gens-là, ils racontent ça, au lieu de servir l'intérêt général, et donc probablement avec ces questions d'intérêt privé. Alors juste, je vais faire très court sur les deux événements dont je parlais, puis après, pour avoir des échanges. Juste l'histoire de la Mésange Bleue, je voudrais la résumer en quelques mots, surtout parce qu'elle illustre la diversité des tactiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, donc en mars 2024, quand cette Mésange Bleue nous a permis de faire arrêter le chantier quelques jours, Mais c'était quand même vraiment extraordinaire en termes de conjonction d'éléments. Depuis des semaines, en tout cas, on disait que la Tosca n'avait pas le droit de couper les arbres, de faire couper les arbres par son sous-traitant qui s'appelle Soins modernes des arbres, qui venait couper la parcelle de la Crémarbre à Saïs, dont il était dit qu'elle était à fort enjeu écologique et dont normalement il n'était pas possible d'y intervenir à part entre le 1er septembre et mi-novembre, parce que des oiseaux, parce que des chauves-souris, parce que d'autres espèces animales. Et ils nous ont dit, non, mais on a déclassé, c'est bon. L'ADREAL, donc la Direction Régionale de l'Environnement, nous a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais là, on n'avait pas de documents, on n'avait rien. Mais en plus, on ne déclasse pas comme ça. Vous avez fait tout un processus qui est passé devant le Conseil National de Protection de la Nature, devant l'autorité environnementale, pour avoir le droit de déroger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand on déroge, c'est sur certaines conditions d'exigence, de besoin, de démontrer le besoin, de démontrer qu'il n'y a pas eu d'alternative. Mais c'est aussi sous certaines conditions d'exécution, pour avoir les impacts les plus limités possibles. Et notamment, quand il y a des calendriers, c'est justement pour que les impacts soient les moins importants. Donc là, vous avez tout ce processus qui dure pendant des années avant. Vous avez un préfet qui signe que vous ne devez pas intervenir à part entre le 1er septembre et mi-novembre. Et là, vous, sur un coup de téléphone ou un mail avec l'ADREAL, vous vous dites que maintenant, vous pouvez couper cette parcelle parce qu'elle vous gêne là. Elle était occupée par des personnes dans les arbres. Donc nous, on disait depuis plusieurs semaines, elle n'est pas déclassée, vous n'avez pas le droit de la déclasser comme ça. Il y avait, au début, plusieurs dizaines d'écureuils de militants, militantes dans les arbres qui occupaient, qui y sont restés, je vous rappelle, près de 40 jours, avec un siège quasiment intégral, des pratiques que le rapporteur spécial de l'ONU a qualifiées de pratiques cruelles, que notre avocate sur les aspects répression, Claire Dujardin, a qualifiées de torture blanche, avec des forces de l'ordre qui éclairaient la nuit, qui faisaient du bruit, qui empêchaient les personnes de dormir, qui donc... une décision du préfet ou des ministres d'empêcher le ravitaillement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau. Il y a eu un moment des feux qui ont été allumés au pied des arbres où des employés municipaux, sous le regard bienveillant des forces de l'ordre, ont, avec des souffleuses à feuilles, orienté la fumée vers les arbres. Ce que je dis quand même des fois, c'est que dans le droit de la guerre, parce qu'il existe un droit de la guerre, on n'a pas le droit d'envoyer des gaz ou d'envoyer de la fumée sur ses ennemis et des gens qui sont pris dans un tunnel ou quoi. Dans le droit de la chasse, on n'a pas le droit. Pour des renards ou des blaireaux, on n'a pas le droit d'envoyer de la fumée. Là, aux yeux, au vu, au sud de tout le monde, on a envoyé de la fumée dans des gens qui étaient bloqués dans des arbres à 30 mètres de haut. Et on a fait une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'État français a dit « Ah, rien ne nous prouve que les vidéos et les photos que vous nous montrez ont été prises au lieu à l'heure que vous dites. » Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit ben, « Effectivement, donc revenez quand vous aurez des éléments. » Bon, bref, on n'a toujours pas donné suite à ça, mais ce n'est pas possible. Donc voilà. Et donc, du coup, il y avait cette situation-là. On essayait, je vous passe un peu les détails, mais des mails, des appels, des prises de position pour dire « Vous n'avez pas le droit, ce que vous faites ne va pas, ces arbres, vous ne devez pas y toucher. » Commission d'enquête parlementaire qui mettait la pression à côté. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des zadistes au sol, donc des personnes masquées, parce qu'à un moment, vu ce qu'on voit, vous avez peut-être vu en plus ces derniers jours les images sur Sainte-Soline et tout ça, et où des persécutions qu'il peut y avoir en justice sur certaines personnes, ou des persécutions qu'il peut y avoir, il y a un documentaire qui est sorti assez intéressant du Média il n'y a pas longtemps, sur des militants et des militantes gilets jaunes notamment, mais aussi écolos, qui se retrouvent à se voir bloquer leurs allocations CAF ou des choses comme ça, et dont c'est démontré que c'est parce que c'est de la persécution policière. Du coup, les personnes masquées, pour la plupart, zadistes, avaient tous les jours, pour essayer d'objectif, d'envoyer un peu de nourriture aux personnes qui étaient dans les arbres, et notamment envoyer des petites boulettes de lentilles ou de nougat, de chocolat. Voilà. Et donc tous les jours, là, à ce moment-là, là, vers début mars, ça commençait à créer des tensions, et il y avait des tirs de lacrymo. Beaucoup de lacrymo, y compris il y avait des vidéos qui m'impressionnaient, parce qu'il y avait des personnes dans les arbres qui, après avoir eu la fumée des feuilles en train de brûler, avaient des gaz lacrymo sur l'arbre, sur une plateforme grande comme ça, en étant là depuis 35 jours, en étant assiégés, qui étaient en train de suffoquer. Bon. Mais il se trouve que sur une des images, le lundi 18 mars, j'ai vu les tirs de lacrymo. Ah oui, non, alors, c'est pas ça. C'est quelques jours avant, une des écureuils avait envoyé des images en disant « il y a un oiseau sur mon arbre ». Et là, dans des échanges avec les naturalistes des terres, sur des boucles, il y a quelqu'un qui dit « c'est une mésange bleue, c'est une espèce protégée ». Je dis « c'est une espèce protégée, donc on n'a pas le droit d'y toucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sauf si on a une dérogation, mais la dérogation, elle prévoyait qu'on ne pouvait toucher aux arbres qui représentent son habitat d'espèce qu'entre le 1er septembre et mi-novembre. Donc là, au mois de mars, ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un délit. Passible de 3 ans de prison, 150 000 euros d'amende, voire 7 ans de prison, 750 000 euros d'amende si vous le faites en bande organisée. Là, on a quand même l'impression que vous êtes bien organisé, que la volonté est claire, que l'intention est manifeste parce qu'on vous a prévenu depuis des semaines que vous n'aviez pas le droit. Et il se trouve que les... Donc voilà, 2-3 jours après, on atteste, des scientifiques confirment que c'est bien une mésange, qu'elle est bien en train de nidifier, tout ça. Et là, du coup, quelques jours après, à une occasion devenue des zadistes qui essayent d'envoyer de la nourriture, les CRS tirent des quantités de lacrymogènes. Et sur une des images, j'ai remarqué qu'il y avait un petit élément de la maison du garde-barrière qui m'a fait dire, ah, mais les CRS sont là, enfin les gardes mobiles sont là, ils tirent vers là, c'est le chêne dans lequel il y a la mésange bleue. Donc, plainte au pénal, au procureur, contre les CRS qui tiraient des lacrymos, pour délit d'atteinte et de mise en danger de la mésange bleue. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme et tout le monde nous avait dit les gens qui sont en train de suffoquer dans les arbres, qu'on asphyxie, qu'on prive de nourriture, on ne peut rien faire pour l'instant. Eh bien, le procureur a décidé de nous donner raison et de dire, bon, je vous passe les détails, je pourrais expliquer plus si besoin. Ok, vous avez raison, ils n'ont pas le droit de toucher à ces arbres parce que le calendrier, il y avait un doute, mais dès lors qu'il y a une espèce d'oiseau en train de nidifier et qui est atteinte par des actes du coup, qui les mettent en danger, on n'a pas le droit de toucher aux arbres, on n'a pas le droit de toucher au nid d'oiseau. Donc du coup, arrêt du chantier. Et juste dernier petit exemple, et puis on va pouvoir échanger peut-être plus. Une autre plainte qu'on a déposée, qu'on a rédigée, je vous en passe, j'en ai rédigé 7-8 plaintes et on en a 3 avec caution de partie civile devant le procureur. Je pourrais expliquer aussi en quoi les plaintes pénales viennent en complément de l'action administrative. Mais on a aussi déposé une plainte pour prise illégale d'intérêt autour du château de Morin-Scopon, où là, je fais très court, parce que j'ai déjà fait long, c'est le député de la circonscription Jean Terlier, qui était avocat du maire de la commune de Morin-Scopon. En tout cas, le cabinet d'avocats dont Jean Terlier était associé jusqu'en 2022, la Clé des Champs, était le cabinet d'avocats du maire de la commune de Morin-Scopon, sur les terres duquel le tracé de l'autoroute devait passer, et passe toujours, mais devait passer à ras de ces bâtiments agricoles d'élevage de canards. Et par tout un enchaînement de choses, le tracé de l'autoroute ne passe plus à ras de ces bâtiments, il passe plus bas sur le coteau. Ce faisant, il passe à 180 mètres du pavillon romantique, néo-gothique, classé au monument historique du château de Scopon, sans que l'architecte des bâtiments de France n'ait donné d'avis favorable. Au contraire, il a fait par 2 fois des courriers en disant « je ne comprends pas pourquoi vous passez là, vous pouviez passer plus haut sur le coteau ». Je vous passe le fait qu'entre-temps, la préfète du Tarn avait autorisé un permis de construire pour un bâtiment qui se trouve sur le tracé tel qu'il était prévu au départ. Donc après, on nous a dit « non, on ne peut plus passer parce qu'il y a ce bâtiment ». On ne nous a pas dit « parce qu'il y a les terres du maire ». Parce qu'il y a ce bâtiment neuf d'usine de cordage qui aujourd'hui est vide, mais qui a été construite il y a quelques années, qui fait ah ben non, on n'a plus le choix, maintenant on ne peut passer qu'en bas. Et Jean Terlier, député du sud du Tarn, qui s'est de suite porté candidat pour être président de la commission d'enquête parlementaire sur l'autoroute A69, que Christine Arrigui avait demandé et dont elle a été rapporteure, donc députée écolo de Toulouse avait demandé, et Jean Terlier s'est de suite porté candidat. Donc Jean Terlier, venu du PS, macroniste, s'est de suite porté candidat pour présider la commission d'enquête parlementaire. Et la seule audition à laquelle il s'est opposé pendant toute la commission d'enquête parlementaire, c'est celle de l'architecte des bâtiments de France. Il a fait venir tous ses copains qui ont voté, on le voit sur les images de la vidéo, hop, ils sont tous venus. Est-ce que vous voulez... Non, tous contre, ils sont partis. On ne les avait jamais vus depuis le début, on ne les avait jamais revus. Ah, donc là, du coup, cet élément-là m'a permis de dire, allez, là, on dépose une plainte pour prise illégale d'intérêt parce que le fait que Jean Terlier ait refusé l'audition de l'architecte des bâtiments de France devant la commission d'enquête parlementaire, à minima, ça lève un soupçon. Et nous, on montre qu'il était du coup dans le bureau de cabinet d'avocat, qui était le cabinet d'avocat du maire de la commune de Morin-Scopon, qui a donc discuté les questions de tracé. Jean Terlier, devant la commission d'enquête parlementaire, se vante d'avoir lui-même obtenu d'Elisabeth Borne la signature de la déclaration d'utilité publique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait est l'acte qui a fixé le tracé avant que l'autorisation environnementale permette les destructions de biodiversité. Et du coup, ça aussi, c'est devant la juge d'instruction de Castres actuellement, pareil, qui est très débordée, qui là, pour l'instant n'a pas le temps. Mais, et donc voilà, donc là, on a un sujet aussi de ce côté-là. Donc, je vous parlais des intérêts un peu généraux, nationaux, du BTP, bien sûr, peut-être de vision de carrière politique ou autre, en tout cas des gens qui ont tout intérêt à laisser ce, ce système économique-là, pour ne pas dire autre chose, voire paramafieux ou mafieux, puisse continuer à se développer. Des préfets qui signent tout ça. Alors, si je vais juste dire un dernier mot, excuse-moi, sur les préfets, ça va aller vite. Et du coup, on a aussi les notables locaux qui, d'une manière ou d'une autre, et où le député local qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, en tout cas, il s'est mouillé dans cette affaire et derrière, il a été président de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Quand même. Deux trucs pour finir. Quand des députés ont demandé à la déontologue de l'Assemblée de voir s'il n'y avait pas un problème avec Jean Terlier, je pense qu'il y a, il y a un truc qui a été fait, c'est que c'est sa femme qui a été mise en cause, parce qu'elle travaille chez Pierre Femme. Et la question a été posée, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts parce que l'épouse de Jean Terlier travaille chez Pierre Femme. Personne n'a dit, mais juste, il est député de la circonscription, il était avocat sur ce territoire, et c'est lui qui a défendu la plupart des agriculteurs ou des personnes sur ce territoire. Bon, à mon avis, le conflit d'intérêts, il était manifeste de ce point de vue-là. C'est dommage que personne ne l'ait posé, mais on verra si la justice pénale, elle, le relève. Et dernière chose, quand même, pourquoi les préfets signent comme ça ces actes-là? Alors certes, ils sont là pour servir le pouvoir exécutif actuel. Ils sont là au nom du président de la République. Mais pourquoi, à ce point-là, alors que toutes les instances qui sont censées les éclairer leur disent « Votre projet, il va être illégal, ça va pas ». Ne faites pas. Pourquoi est-ce qu'ils signent ces arrêtés préfectoraux quand même? Ben, sur la 69, il a été vu, alors c'est sur 2022, on ne l'a pas sur toutes les années, mais le préfet a dans sa feuille de route annuelle où maintenant, comme tous les fonctionnaires, en fait, il a une prime de fin d'année s'il obtient ses objectifs. Dans sa feuille de route 2022, il est écrit « Faire avancer le projet de la 69 malgré la mobilisation des opposants ». Bon, moi, je n'ai pas les preuves à ce stade, mais il y a quand même un sérieux problème, probablement, dans juste la logique et la mécanique qu'il peut y avoir derrière tout ça. J'en ai fini sur ce que je pensais intéressant de dire et important de dire.
On va laisser. Merci, Jean. On va laisser la place au débat. Je voulais pour ma part, je vais rajouter une petite chose. Là, c'est la dimension économique qu'il y a derrière ça, derrière surtout ces entreprises de BTP. Et ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors, excusez-moi, j'essaye de retrouver un document que j'ai mis en ligne. Le premier, c'est quand on circule un peu le soir, ça m'arrive souvent après des conférences débats ici, quand vous avez des travaux sur les rocades, autour de Toulouse simplement, c'est impressionnant. Les matériels qui sont déployés. Mais c'est des machines énormes. Et puis, c'est des dizaines et des dizaines de camions qui sont là sur les autoroutes. Et on se rend compte que ces investissements énormes, en termes capitalistes, hein, en termes capitalistiques, ces investissements énormes, ils ont besoin de fonctionner. Donc, ces entreprises-là, si elles ne font pas tourner leurs machines, elles périclitent et elles vont dans le mur. Ça, c'est un côté complètement... absurde d'une part, mais qui montre bien un peu cette fuite en avant qu'il y a sur le sujet. Et je voudrais recommander un livre, c'est pour ça que je vous cherche. Bon, écoutez, je voulais vous le retrouver après. Je vous dirai quel est le livre. C'est un livre qui a été écrit il y a pas très longtemps sur c'est construire des routes, déployer du béton, etc. Voir un petit peu toutes les conséquences que ça a. Tu parlais des gravières tout à l'heure. Et cet ouvrage est remarquable. Hein, Léno Magalhès, je crois que c'est l'auteur. Voilà. Écoutez, place au débat. Hein. Merci à Jean encore une fois. Et puis. Qui veut intervenir?
Même audio, une mémoire sonore.